France Inter. Bon réveil, nous sommes le vendredi 6 juin 2025 et il est 5h.
France Inter, Marion Lourd. Le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver en ce petit matin. Au programme aujourd'hui, il y a le sommet des océans et la fête de la mer et des littoraux. On parle de cet événement avec la députée qui l'a inventé dans les chroniques littorales. Le 5-6 vous emmène aussi en Syrie, reportage exceptionnel à Homs, une ville test pour les nouvelles autorités syriennes. À 6h moins le quart, rendez-vous avec notre invité déjà debout. Il est responsable des achats dans une entreprise qui fournit des plats cuisinés diététiques. Quelques questions d'importance aussi ce matin. Vous vous la posez peut-être devant votre miroir. Qu'est-ce que la beauté ? Élément de réponse dans les petits bateaux. Alors qu'avant 6h, le Café Philo s'interroge. Pourquoi sommes-nous si pressés de vivre notre vie avec intensité ? Voilà, vous avez le menu. Je vous accompagne jusqu'à 9h sur France Inter. Et ça commence avec le journal de Philippine Thibaudeau. Bonjour Philippine.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Ils vivaient une véritable idylle et les voilà proches du divorce.
Donald Trump et Elon Musk ne peuvent plus se voir en peinture et le font savoir en public sur leurs réseaux sociaux respectifs. Les deux hommes particulièrement actifs hier soir. Le milliardaire a claqué la porte la semaine dernière du gouvernement de son ex-ami et président. Il a ensuite critiqué son méga projet de budget, ce qui n'a pas du tout plu à Trump. Et depuis, ils n'ont de cesse de se piquer par message interposé Sébastien Paour.
Trump dit de Musk qu'il est devenu fou. Musk dit de Trump que sans lui, il n'aurait pas été réélu. Le président américain menace d'annuler des milliards de dollars de contrats fédéraux avec les entreprises de Musk pour faire des économies dans le budget. L'homme le plus riche du monde répond qu'il va mettre hors service son vaisseau spatial de SpaceX que la NASA utilise notamment pour aller et revenir de la Station Spatiale Internationale. Il suggère aussi de destituer Trump et de le remplacer par son vice-président, J.D. Vance. Il reposte une vidéo d'une soirée de 92 où Trump est avec Jeffrey Epstein entouré de femmes qui dansent, manière de sous-entendre que le président a peut-être des choses à se reprocher dans ce dossier où des dizaines de jeunes femmes, certaines mineures, affirment qu'elles ont été violées et prostituées. Musk affirme enfin qu'il est temps de créer un nouveau parti politique en Amérique, message en forme de sondage à ses plus de 220 millions d'abonnés sur X, pour savoir s'ils veulent ou non un parti qui représente, d'après lui, les 80% d'Américains qui sont au centre de l'échiquier politique. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Après cette joute verbale sur les réseaux sociaux, l'action de Tesla a plongé en bourse hier soir et Wall Street a clôturé en baisse. Donald Trump qui voulait interdire les étrangers de venir étudier à Harvard, mais la justice américaine suspend ce matin son interdiction. C'est l'université américaine qui avait annoncé à contester hier cette décision en justice. Le président américain qui accuse les instances universitaires de promouvoir des idées trop de gauche et trop progressistes. Vont-ils se remettre autour de la table ? Le Hamas est dit prêt à de nouvelles discussions sérieuses pour une trêve à Gaza. Dans le même temps, la défense civile de la bande de Gaza a fait état de la mort hier de 37 personnes dans l'enclave palestinienne dans des frappes israéliennes.
En France, le gouvernement se déplace en nombre aujourd'hui à Montpellier, au chevet des quartiers populaires.
François Bayrou, accompagné de 8 de ses ministres, le comité interministériel des villes se réunit après avoir été 2 fois reporté. Objectif: proposer des mesures autour de l'enfance, de l'insertion professionnelle et de la tranquillité publique pour 1600 quartiers prioritaires, ce qui représente 6 millions d'habitants. Là, ce comité se déroule dans un contexte budgétaire tendu, alors que le gouvernement cherche 40 milliards d'économies pour 2026. Les attentes des élus de banlieue sont énormes, même si Gilles Leproux ne croit plus à de grandes avancées. Il est le maire PCF d'Allonne dans la Sarthe et président de l'association Ville et Banlieue.
Il y a longtemps que nous ne sommes plus bercés d'illusions. Tenir des grandes messes, restons laïcs, mais des grandes assemblées, et puis qu'après, ça passe en 8e position sur la liste des courses, on voit bien les conséquences que ça peut avoir, du découragement, voire chez les habitants d'un sentiment d'abandon. On voit bien que la préoccupation des habitants, des maires, des associations, des quartiers prioritaires sont peu ou pas prises en compte par ce gouvernement, comme les précédents d'ailleurs, globalement. Mais même dans un contexte budgétaire, et je le vois comme maire d'une ville, on fait des choix politiques. Il n'y a pas effectivement de volonté politique de relever le défi auquel sont confrontés les habitants des quartiers populaires. Parce que quand on a les chiffres, contrairement à ce qui peut être balancé de ci, de là, le financement par habitant dans les quartiers prioritaires est inférieur au financement, je parle du financement de l'État, de manière générale, de la moyenne nationale. Hein. Donc, on n'a pas trop d'argent, comme certains voudraient le dire. C'est qu'en plus, dans nos territoires, on part d'une situation où les gens ont beaucoup moins qu'ailleurs. Et que donc, ça demande un effort supplémentaire en termes de solidarité nationale, de l'État et des différents opérateurs.
Au PS, la bataille des chiffres a commencé. Le camp du premier secrétaire sortant, Olivier Faure, affirme être en tête du vote des militants avec 50,9% des suffrages. Les partisans de son opposant, Nicolas Mayer, rossignolent le maire de Rouen, estime être au coude à coude avec un écart trop serré pour se prononcer. Des chiffres définitifs sont attendus aujourd'hui. À Reims, au moins 4 personnes sont mortes cette nuit dans l'incendie d'un immeuble au 4e étage, rapporte la préfecture. Un autre enfant est porté disparu et 2 adultes ont été gravement blessés. Le feu est actuellement éteint, précise encore la préfecture.
Et comme un air de déjà-vu sur la pelouse de Stuttgart en Allemagne.
Comme à l'Euro 2024, les Bleus se sont fait sortir par l'Espagne. C'était hier, en demi-finale de la Ligue des Nations. 5-4 pour les tenants du titre espagnol. Et l'équipe de France a frôlé l'humiliation, largement menée au score jusqu'à l'heure de jeu, avant de réussir un improbable retour avec 3 buts inscrits en un quart d'heure, mais insuffisant pour sauver la soirée des 17 000 supporters français, un record qui ont fait le déplacement en Allemagne, Nicolas Perronnet.
68e minute, 5-1 pour l'Espagne. La défense française prend l'eau de partout et des olé humiliants descendent des tribunes. À ce moment-là, Nicolas reconnaît qu'il n'emmène pas large et que le score final, 5-4, est finalement assez flatteur pour les Bleus.
Bah 5-1, on aurait peur du 6-1, 7-1, 8-1, ça faisait très très peur parce qu'on voyait que chaque occasion marquait en fait.
Et si Daniel s'est tout de même mis à y croire, miraculeusement, dans les tout derniers instants.
Parce que la fin de match était quand même assez folle. On ressort déjà moins déçu que de prendre 5-1. Au moins, on sort la tête haute.
D'autres, comme Valentin, sont beaucoup plus sévères.
On n'y a pas que du tout, du début à la fin. On s'est fait rouler dessus.
Tous les supporters s'accordent en revanche sur un point. Pour de nombreux joueurs, c'était sans doute le match de trop.
Bah là, on sent que l'équipe ne sont plus du tout dedans. On se dit que c'est aussi la fin de saison. Sûrement que des joueurs sont KO, même les joueurs de Paris qui ont fait la Champions League la semaine dernière. À mon avis, ils étaient un peu cramés. Donc bon, on en ressort quand même un peu content parce qu'on a quand même vu des actions et du but sur la fin, mais très frustré parce qu'on était pas loin finalement.
Jamais les Bleus n'avaient emmené autant de monde avec eux dans un stade hors de l'Hexagone. Alors les 17 000 supporters ont tout de même quitté Stuttgart en chantant et en espérant à nouveau recroiser l'Espagne dans d'autres conditions l'an prochain à la Coupe du Monde.
Et les Bleus devront donc se contenter de la petite finale pour la 3e place dimanche à 15h face à l'Allemagne à Stuttgart. L'Espagne affrontera le Portugal en finale à 21h. Elle veut garder les pieds sur terre, elle qui a eu l'impression de courir partout sur le court. La Française Louise Boisson se remet de ses émotions après avoir été battue en 2-7 par la numéro 2 mondiale Coco Gauff en demi-finale de Roland-Garros. De la 361e place, elle devrait remonter aux alentours de la 65e place du classement mondial. Coco Gauff, elle, poursuit l'aventure. Elle affrontera demain en finale Arina Sabalenka. Mais avant, au programme aujourd'hui, les demi-finales hommes, Yannick Sinner contre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti face à Carlos Alcaraz. Et puis attention, si vous voulez suivre Roland Garros sur France 4, c'est désormais sur la chaîne numéro 4 qu'il faut aller, et plus sur la 14. La nouvelle numérotation a été mise à jour cette nuit. Un grand chamboulement sur la TNT décidé par l'ARCOM qui concerne également, par exemple, France TV ou encore BFM TV.
Bon, si c'est plus simple, écoutez la radio. C'était le journal de Philippine Thibaudot. Il est 5h08.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Et une météo humide, Sébastien Léas.
Le front pluvieux qui traverse le nord-ouest s'étendra encore entre le Limousin, la Bourgogne et l'Alsace aujourd'hui, en perdant de l'activité cet après-midi. Les conditions deviendront plus changeantes, de la Gironde et du Poitou à la Lorraine jusqu'aux côtes de la Manche. Le ciel va avoir tendance à s'éclaircir, mais les averses se développeront de la Bretagne aux frontières belges. L'instabilité sera encore plus marquée entre la Lozère, la Franche-Comté et le nord des Alpes, avec des risques d'averses orageuses cet après-midi et ce soir. En revanche, autour de la Méditerranée, la journée se passera sous le soleil, mais avec un ciel parfois voilés, les éclaircies seront plus timides dans les plaines du sud-ouest. Les températures maximales seront globalement au-dessus des normales de saison sur la moitié sud. 24 degrés à Toulon, Saint-Étienne et Agen, 25 degrés à Montpellier, 27 degrés à Albi et Calvi, jusqu'à 29 degrés à Grenoble et 30 degrés à Manosque et Carcassonne. Plus au nord, l'ambiance sera plus fraîche. Cet après-midi, il fera 19 degrés à Quimper, Amiens et Arras, 20 degrés à Agen, Rouen et Verdun, 21 degrés pour Paris, Poitiers et Besançon et 22 degrés à Mulhouse et à Blois.
France Inter, Marion Lourd, Le 5-6.
5h09 à suivre sur France Inter, une députée d'humeur festive dans les chroniques littorales. Notre invitée déjà debout travaille pour une entreprise spécialisée dans les plats diététiques. Ça peut être utile à l'approche de l'été. Et puis il y a les influenceurs beauté et les influenceurs finance. Les finfluenceurs sont dans la chronique d'où ça sort. Enfin, un sourire au réveil. Charline Vanhoenacker explose les faits aujourd'hui. Cette banderole raciste visant la chanteuse Aya Nakamura, ça sera à 5h25. 5h10 sur France Inter. Avant les chroniques littorales, le futur de la soul créole, c'est la chanteuse et musicienne Célia Wa et son titre Hola. C'était Hola de Célia Wa, 5h13 sur France Inter. C'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer, les mériens et les mériennes. Ce matin, José-Manuel, vous recevez la créatrice de la fête de la mer et des littoraux qui a lieu en ce moment.
En la personne de Sophie Panonacle, la députée du bassin d'Arcachon. Bonjour Sophie Panonacle.
Bonjour José-Manuel.
Sophie Panonacle... Vous, la mer, vous savez ce que c'est. Je vais vous demander tout de suite d'abord, qu'est-ce que ça représente, la mer, pour vous ?
Ça représente, je dirais, presque mon quotidien. Je ne peux pas m'éloigner de la mer plus longtemps que, allez, 3 jours. C'est vraiment le maximum. Ça correspond à peu près au temps que je peux passer à Paris par semaine. J'ai toujours tellement hâte de rentrer sur le bassin d'Arcachon ou ailleurs lorsque je parcours les littoraux français. Et c'est vraiment, voilà, l'appel de la mer, l'appel de l'océan. C'est un art de vivre.
D'où vous est venue cette idée, parce que maintenant ça fait de nombreuses années, hein, de la fête de la mer et des littoraux ?
2018, effectivement, nous en sommes à la 7e édition cette année. D'où m'est venue l'idée, j'ai rencontré la communauté maritime et la première chose que j'ai pu constater, c'est un peu l'entre-soi de ces gens de mer, en tout cas en 2018. Et à partir de là, je me suis dit, mais bien, comment nous pourrions davantage parler mer, littoraux, océan de manière générale au grand public ?
Je dois dire une chose, comme Sophie Panonac, c'est pas vraiment de l'entre-soi, c'est que les gens de la mer, des littoraux, c'est des mériens, ils sont face aux terriens, c'est et c'est souvent les terriens qui les ignorent.
C'est vrai, vous avez raison, c'est un peu ça. On tourne le dos à la mer, ça c'est dit et redit, et effectivement les mériens sans doute sont moins considérés. Alors, pourquoi pas mélanger un peu l'idée de la fête de la musique, des journées du patrimoine et en faire une fête autour de la mer et des littoraux, ludique et pédagogique, et cette année principalement cap sur les sciences océaniques.
Alors, vous mettez le cap sur les sciences dans cette fête des littoraux avec des conférences, des animations. Ça commence le 6 juin, coup de chance, nous sommes le 6 juin, et ça se termine le 6 juillet sur tous les littoraux et ultramarins.
Oui, absolument, sur tout l'Hexagone, la Corse, les territoires ultramarins, extrêmement importants. Un mois de festivité, ça rentre aussi dans le cadre de l'année de la mer, et surtout, je parle des sciences océaniques, je veux vraiment faire un focus sur l'apport des scientifiques, l'importance que les politiques publiques soient fondées sur la science. Bien évidemment, remettons tout ça dans le contexte de l'UNOC, Conférence des Nations Unies à Nice, avec un magnifique congrès porté par l'IFREMER et le CNRS, auquel je participerai, et d'autres également temps forts, notamment la coalition des villes et régions côtières du monde. Vous connaissez mon appétence pour l'adaptation des territoires littoraux face au changement climatique, notamment l'érosion côtière. Donc voilà, la fête de la mer et des littoraux, ce sont aussi tous ces sujets que l'on peut aborder.
Quelle ville sur les littoraux ? Une petite liste pour nous donner envie.
Alors je vais commencer par chez moi, hein. Allez si vous le permettez.
Allez, le bassin d'Arcachon.
L'Escaferré le 22 juin, nous irons également à Pornic, nous irons à Sète, nous irons à Havre, nous irons à Concarneau, nous irons à La Rochelle, nous irons à Dinard. Autant de magnifiques villes de notre littoral dans lesquelles nous allons faire escale cette année.
Sophie Panonac, les ultramarins ne sont pas oubliés bien évidemment.
Nous n'oublions jamais les ultramarins, c'est extrêmement important quand on parle d'océan, donc tous nos territoires, de la Réunion à la Martinique, à la Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie. J'en oublie peut-être, mais en tout cas, ils sont extrêmement importants pour représenter l'océan aujourd'hui.
Et justement, les ultramarins, vous nous faites découvrir des ultramarins chanteuses et chanteurs d'opéra.
Oui, nous avons eu de magnifiques chanteuses des voix d'outre-mer, chanteuses lyriques de ces territoires ultramarins qui ont été une parenthèse enchantée lors de la soirée de lancement de la fête de la mer et des littoraux. Donc je vous invite à découvrir les voix d'outre-mer portées par Monsieur Di Falco.
Merci à vous Sophie Panonacle, un site internet fêtedelamerdeslittoraux.fr. Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José-Emmanuel Lamarque, il est 5h17.
Le 5-6 sur France Inter.
Les unes de la presse ce matin sont éclectiques. Questionnement politique en une de beaucoup de vos journaux. L'opinion tape fort. Le titre, agitation, inaction, la politique en trompe-l'œil. En apparence, la machine tourne, explique le quotidien. Mais que reste-t-il des 130 textes de loi examinés depuis octobre ? Comme souvent, le dessinateur CAC vise juste avec un peintre qui, sur sa toile, esquisse un majestueux noble en fraise sur son cheval. Le modèle n'a pourtant rien à voir. C'est François Bayrou en sous-vêtements et juché sur son cheval de bois. En politique, toujours le Figaro regarde à droite. Philippe Retailleau, deux stratégies, voilà pour le gros titre. Pour le quotidien, l'actuel ministre de l'Intérieur et l'ancien Premier ministre tracent chacun leur route vers la présidentielle 2027. L'humanité, elle, va au-delà de la politique et dénonce ce qu'elle qualifie de menace terroriste d'extrême droite après l'assassinat de Puget-sur-Argent. Au chapitre éco, les échos s'inquiètent du grand reflux de l'inflation. Bonne nouvelle apparente pour nous autres consommateurs, mais qui inquiète les économistes avec le risque d'une spirale déflationniste. La Banque centrale table en effet sur une hausse des prix d'1,6% seulement l'an prochain. Les océans font la une aussi avant le sommet des Nations Unies lundi. C'est la photo de une des échos. Un immense filet plongé dans une mer démontée. Et ce titre, un sommet pour sauver les océans. Et puis une magnifique libération, libé des océans avec le portrait d'un très bel hippocampe pour annoncer la couleur. Le Parisien aujourd'hui en France s'intéresse aux aux influenceurs et parle de la chasse aux dérives menée en ce moment par la ministre en charge de l'égalité. Aurore Berger, explique le journal, presse les géants des réseaux sociaux d'assainir leur contenu d'ici le 9 juillet. Et puis c'est en quelque sorte un autre genre d'influenceur, une tête connue qui fait la une du Parisien Week-end. Il est roux, barbu, un téléphone cache son oreille, qu'on devine peut-être coupé, car il s'agit bien du peintre Vincent Van Gogh. Reproduit par intelligence artificielle, hilar devant son écran d'ordinateur avec derrière lui un de ses tableaux suspendus au mur. Il y a de l'IA dans l'art, titre le Parisien Mag, et le dossier est passionnant. À 5h19, comme tous les matins, à cet horaire, un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, il s'agit d'un type particulier d'influenceurs sur les réseaux sociaux, ceux qui donnent des conseils finance, les fines influenceurs. Alors Cyril Lacarrière, d'où ça sort ?
Eh bien, c'est à la fin des années 2010 que le terme a commencé à émerger, d'abord aux États-Unis. Là-bas, on les appelle les finfluenceurs, contraction, finance, influenceurs. Chez nous, on a rajouté un in, donc ça donne fininfluenceur, mais ça veut dire la même chose. Miracle des internets, grâce à ces fininfluenceurs, l'économie est devenue un sujet cool et intéressant. Terminé le conseiller bancaire, austère, à la Gérald Darnaud, place à des jeunes en jeans et t-shirts et des vidéos postées sur TikTok, YouTube ou Instagram, pour nous expliquer comment investir en bourse, épargner et devenir rentier en trois étapes. La crise sanitaire de 2020 va servir de coup d'accélérateur à ces influenceurs de nouveau genre. L'économie mondiale vacille, les jeunes veulent prendre le contrôle de leur argent. Tout le monde parle de crypto-monnaie sans rien y comprendre. Une voie royale pour les fines influenceurs.
Et ça ne va pas s'en faire de dégâts.
Eh bien non, forcément, pour la bonne et simple raison que ces conseillers bancaires 2.0 sont souvent des autodidactes et parfois des gens qui n'y connaissent absolument rien à la finance. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec des gens qui perdent toute leur économies à cause d'une vidéo YouTube. D'ailleurs, ici en France, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, va elle-même alerter sur ces risques. Elle s'est dite préoccupée par l'accroissement du nombre de ces créateurs de contenu qui vantent des placements à haut risque, sans aucune formation et surtout sans aucune transparence sur leur partenariat avec certaines boîtes dont ils vendent les produits. Alors, pourquoi cet engouement pour les placements financiers ? Faut-il se féliciter de l'émergence de ces jeunes qui parlent d'économie ? Quels sont les risques ? Comment réguler cette activité ?
Et bah réponse dans le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter sur le site de France Inter. C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Tous deux reviennent à 16h cet après-midi. Et il sera question entre autres de l'année 2000 et de l'éclatement de la bulle Internet. 5h21 sur France Inter. Dans un instant, l'humour de Charline Vanhoenacker. Mais attendez un peu, tout de suite, un extrait de la playlist de France Inter. L'artiste américaine Doechii chante « Wait ».
Life is just like a settlement, waiting for you to cash on it. Life is just like a bike, it don't move unless you pedal. Then less about who is better and more about who blessing them. Softer than gelatin, peanuts than elephants. You dumb as a boss or Ross if you think it's irrelevant. My granny been popping Zanny since CBS met the nanny. My mammy dandy, she tripper than Annie. And I'm not talking to family, but I've been dreaming of fishing since I've been watching the Grammys. And I'm here to stay like the shit in your panties. I need some standing ovation since y'all can't seem to understand me. I might look fly in the matrix, I hope I'm sticking my landing. No need to bring fall back in August, September. You should just fall back in. Wait. Who wants to clear the fog and all the smog in your mirrors? Well, you could just fall back in. Wait. Delete your call log and clear your agenda. You should just eat what's on your. When they
into my crib. Still a baby by day, bad bitch by night. Still applying my gloss from red to green light. Niggas calling my phone, bitches calling my phone. Private calling my phone, blocking you off my phone. Bill collectors, roach and bug inspectors calling my phone. Who you checking if I'm disrespecting you with my tone?
Doechii, l'affiche du festival Rock en Seine le 21 août prochain.
France Inter.
À 5h24, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10, elle explose les faits. Et mardi dernier, elle nous rappelait la banderole raciste qui visait Aya Nakamura, la chanteuse, en mars 2024.
Tout le monde se souvient de cette polémique. Une banderole avait été déployée avec ce message. Il n'y a pas moyen, Aya. Ici, c'est Paris, c'est pas le marché de Bamako. Mmh. Et Aya Nakamura avait splendidement répondu en chantant avec la garde républicaine à l'ouverture des JO. Bon. L'enquête sur la fabrication de cette banderole est savoureuse. Mediapart et Street Press expliquent que le slogan validé au départ, c'est « Il n'y a pas moyen, Aya. Ici, c'est Paris, pas Kinshasa ». Sauf qu'elle est d'origine malienne, pas congolaise. La tuile, parce qu'Aya, ça rime pas avec Bamako. Que faire? Et là démarre un échange entre trois identitaires, un dialogue que je vous livre brut parce qu'il est authentique et que je respecte les auteurs. Non, mais on peut laisser, ça va, elle est noire, quoi. Ouais, Kinshasa, c'est Congo, mais bon, c'est l'Afrique, quoi. Après, on est raciste, hein, donc on s'en fout. PTDR, j'avoue. Voilà. Ça vous donne un aperçu du niveau au Vichy Comedy Club. Mais faut aimer l'humour d'extrême droite. À partir de demain, ils devront expliquer ses propos devant la justice. Quant à moi, je m'intéresse au côté poétique de la chose. On a beau avoir affaire à une banderole haineuse, on sent l'amour de la rime. C'eût été Damso qui chantait au JO. Bon, bah Damso, ça rime avec Bamako. Pas de bol, il est né à Kinshasa. Est-ce que ça vaut la peine qu'on leur dise qu'il y a deux Congos? Parce qu'avec le Congo Brazzaville, le seul chanteur qu'on peut insulter pour la rime, c'est Philippe Laville. Mais il est blanc. Ouais, mais il tape sur des bambous. Allez, ça dégage. Et tant pis, il est numéro un. Vous imaginez le contenu des réunions identitaires. À votre avis, qu'est-ce qui sonne le mieux? Les étrangers piquent nos métiers ou les négros volent notre boulot? Négros, ça craint, hein. Oh, je trouve pas. Ah si, c'est réducteur. Les étrangers, ça permet d'élargir à tous les immigrés. Mon imagination est en dessous de la réalité. D'après l'Office de lutte contre les crimes de haine, pour définir la musique d'Aya Nakamura, l'un des identitaires déclare « C'est le genre musical reconnu par France Inter de pop nègre ». Non. La pop nègre. Ah, attendez, à ne pas confondre avec l'électro-couscous, parce que ça, c'est sur Move. Vous voyez qu'il n'y a pas que le traitement de l'actu pour lequel ils nous détestent, il y a aussi la programmation musicale, à deux doigts d'inventer l'islamo-playlist. Par ailleurs, ces militants avaient déroulé une banderole place Louis Aragon à Paris. Bon, Aragon, résistant communiste opposé aux idées racistes. Donc, en plus d'être nuls en géographie et en musique, ils sont nuls en histoire. Il n'y a pas qu'au tribunal qu'il faut les renvoyer, hein, en CM1 aussi. Pour ne pas se faire repérer, ils se retrouvent dans des bars en sous-sol et utilisent des pseudonymes. Alors là, pas de bol parce qu'ils se sont fait gauler quand même. D'ailleurs, la banderole a même été retrouvée chez l'un d'eux, fabriquée avec un drap. L'enquête ne dit pas s'il avait complété sa parure de lit avec une housse de couette. Ici, c'est mon lit, c'est pas la Tunisie. Et en garde à vue, lorsqu'on leur demande qui ils auraient préféré pour représenter la France, ils répondent Céline Dion. Ils sont tellement en retard sur leur temps qu'ils pensent que le Québec appartient encore à la France. Au passage, Aya Nakamura, elle, est française. Et enfin, parmi les auteurs de la banderole, on trouve une assistante parlementaire de trois députés RN au moment des faits. Vous voyez bien que ça leur arrive de travailler aux assistants parlementaires RN. Et grâce à cette histoire, on sait enfin à quoi ils sont payés.
France Inter.
Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi 9h45 et demain, samedi 19h20 pour Bistroscopie avec l'humoriste bien connu ici, Nicole Ferroni. Dans une poignée de secondes, le journal.
Ce vendredi sur France Inter.
Bonjour, c'est Damso, j'espère que vous allez bien.
Soirée spéciale titre à titre avec Damso.
J'ai pas encore fait cet exercice, mais là je vais vous raconter mon nouvel album, B.A. Morceau par morceau, titre par titre, de long en large.
N'oublie pas qu'un cœur brisé fait que mimer les sentiments.
Au studio, il y a toujours du plaisir parce que c'est, ça reste un jeu, on s'amuse.
La vie n'est plus qu'un souvenir.
Damso, titre à titre, soirée spéciale sur France Inter, ce vendredi à partir de 21h.
Il est 5h28 sur France Inter et le voilà qui vient de rentrer en studio. Bonjour Ali Badou.
Bonjour Marion Lourd, comment allez-vous ?
Ça va et vous ?
Plutôt pas mal.
Alors au programme du 6-9 aujourd'hui ?
À 6-20, vous reviendrez sur le congrès du Parti Socialiste avec l'élection du premier secrétaire et un invité, Rémi Lefebvre, qui est professeur de sciences politiques à Lille et qui est un grand spécialiste de la question. À 7h moins le quart dans le débat éco, un sondage étonnant sur les services publics où les Français se montrent plutôt satisfaits.
Ah bah oui.
On en débattra avec Thomas Porcher et Dominique Seux. Et à 8h20, invité Jean-Yves Le Drian, qui est représentant personnel du président de la République pour le Liban et qui est ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Beaucoup de dossiers, évidemment, à aborder avec lui tout à l'heure.
Toutes les questions diplomatiques et étrangères, bien sûr, entre autres. À tout à l'heure, Ali.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h29. Le journal Philippine Thibaudot, rebonjour.
Rebonjour Marion, bonjour à tous.
Des fumées venues du bout du monde et visibles jusqu'en Europe.
Au Canada, les flammes font rage, l'état d'urgence est toujours en vigueur. Dans deux provinces du centre du pays, le Manitoba et la Saskatchewan, les incendies progressent aussi dans d'autres provinces de l'Ouest, attisées par une sécheresse extrême, dévorant forêts et infrastructures. Et désormais, des villes, au total, près de 30 000 personnes ont déjà été évacuées face à des feux incontrôlables qui ne cessent de gagner du terrain, Nafia Liber.
Le vacarme d'un hélicoptère au-dessus de Larronge, petite ville au nord de la Saskatchewan, cernée par la forêt boréale. Au sol, des pompiers tentent de sauver deux commerces. En vain, les flammes l'emportent. Les bâtiments sont détruits, une partie du centre-ville disparaît dans ce que les autorités appellent un monstre de flammes. Et ce n'est qu'un foyer parmi près de 200 autres disséminés à travers l'Ouest canadien. Déjà, plus de 2 millions d'hectares ont brûlé, l'équivalent de deux fois l'Île-de-France. Steve Roberts, de l'Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan, explique les choix qui guident les opérations.
La priorité numéro un, c'est de protéger les gens, mais la météo ne nous aide pas.
L'ennemi, c'est le vent, la moindre étincelle peut parcourir un kilomètre, et les foyers se rejoignent, formant des méga-brasiers. L'un d'eux a franchi la province voisine du Manitoba, déjà durement touché par les feux. C'est notre plus grande menace actuelle, s'inquiète Christine Hayward du service des incendies de forêt du Manitoba. Rien que dans cette province, plus de 650 pompiers sont mobilisés, dont des renforts venus d'ailleurs au Canada et des États-Unis. Sous les fumées épaisses, tout semble passer au filtre sépia, une atmosphère irréelle, reflet d'une catastrophe climatique rarement vue. Nafia Liber, Montréal, France Inter.
De l'autre côté de la frontière canadienne, aux États-Unis, Donald Trump et Elon Musk se déchirent en public après leur alliance spectaculaire. Leur rupture l'est tout autant. L'un l'accuse de folie, l'autre d'ingratitude. Le milliardaire a annoncé mettre hors service son vaisseau spatial Dragon, un vaisseau utilisé pour amener les astronautes vers la station spatiale internationale. Réaction qui ne s'est pas fait attendre après la menace de son ex-ami d'annuler ses contrats avec l'État. À l'origine du divorce, les critiques d'Elon Musk à propos du méga projet de loi budgétaire du président américain.
En France, le camp d'Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, revendique la victoire du congrès du PS.
Quand ses opposants, proches de Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de Rouen, estiment que l'écart est pour l'instant trop serré. L'entourage du premier secrétaire sortant parle d'un score d'environ 50,9%. Des chiffres définitifs sont attendus pour aujourd'hui. 198 voix contre, 35. Un premier vote symbolique pour l'abrogation de la réforme des retraites hier à l'Assemblée. Un grand événement à saluer. Sophie Binet, la chef de la CGT. Le syndicat avait prévu hier 165 points de rassemblement pour protester contre la réforme de départ à la retraite à 64 ans.
5h32 sur France Inter, la liberté n'a pas de bouton off.
Voilà le dernier message laissé aux utilisateurs par les sites pornographiques accompagné de l'image du tableau d'Eugène Delacroix, la liberté guidant le peuple. Les Français ne peuvent plus avoir accès à YouPorn, Pornhub et RedTube depuis deux jours. Réaction de la plateforme à l'eau à ce qui s'applique à partir d'aujourd'hui, que l'ARCOM peut mettre en demeure les sites pornographiques qui ne contrôlent pas l'âge des utilisateurs. Et pour cause, aujourd'hui en France, 30% des mineurs se rendent au moins une fois par mois sur un site porno selon l'ARCOM. Mais sa consommation peut devenir une réelle addiction. C'est pourquoi l'association We Are Lovers intervient auprès des jeunes, Estelle Romer.
À 13 et 14 ans, Fares et Imen sont conscients d'être dépendants. Ils consultent les sites au moins une fois par semaine.
Il y a des moments où je faisais tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Une fois en une nuit, je l'ai fait 7 fois. Du moment où je suis seul, même si je n'ai pas envie de le faire, dans ma tête, je ne sais pas ce qui se passe et j'ai quand même envie de le faire et au final, je retombe. Ça me saoule parce que j'ai l'impression en fait, je suis prisonnier.
Si eux savent que ce n'est pas la réalité, ce n'était pas le cas d'Emmanuel, membre de l'association We Are Lovers, à 15 ans quand il a commencé.
J'y suis retourné quasiment quotidiennement tout de suite. Mais sur le coup, je me disais pas que j'étais addict. Plein de potes faisaient ça.
Il réalise qu'il y a un blocage en fin de lycée avec sa première copine.
Là, je me suis dit, il faut que j'arrête. Et quand j'ai essayé d'arrêter, c'était juste impossible. La pornographie avait habitué mon regard à rechercher de l'excitation dans les filles que je croisais. Je gérais mes pulsions sexuelles avec la pornographie.
Aujourd'hui, à 23 ans, il s'en est sorti et témoigne auprès des jeunes, un public particulièrement vulnérable à l'addiction, explique Maria Hernandez-Mora, psychologue clinicienne spécialiste du sujet.
Ils ne sont pas habilités au niveau neurobiologique, physiologique même, pour faire face à une telle intensité sexuelle, ça peut accrocher beaucoup plus facilement le cerveau que chez un adulte. C'est vraiment un terrain de risque pour le développement d'une sexualité compulsive et parfois même violente.
Pour mieux lutter, l'association veut développer un contrôle parental des images par l'intelligence artificielle sur les écrans des mineurs.
Estelle Romer pour France Inter. En foot, les Bleus complètement dépassés par l'Espagne. Ils ont perdu 5-4 en demi-finale hier de la Ligue des Nations à Stuttgart. Les Espagnols filent donc en finale dimanche pour affronter le Portugal à 21h. La France jouera la 3e place le même jour à 15h face à l'Allemagne.
C'était le journal de Philippine Thibaudot. Bonne nuit Philippine, allez vite vous mettre à l'abri.
Oui,
car le temps de ce vendredi est nuageux et parfois pluvieux dans la moitié nord. Il fera plus chaud et ensoleillé dans le sud-est. De la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est et à la Franche-Comté, le temps reste couvert avec des pluies passagères possibles. De la Bretagne et des Pays de Loire jusqu'aux Hauts-de-France, le ciel alterne entre éclaircies et nuages, parfois accompagnés d'averses. Le vent d'ouest reste sensible près de la Manche. Au sud, belle période ensoleillée ce matin, mais les nuages arrivent progressivement sur l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Franche-Comté ainsi que sur les Pyrénées. Attention aux orages parfois cet après-midi et ce soir du sud massif central à la Franche-Comté en passant par la région lyonnaise et la Haute-Savoie. Le soleil brille sur la région Provence, Alpes, Côte d'Azur et la Corse. Côté thermomètre, 11 à 18 degrés ce matin, 17 à 31 cet après-midi, 17 à Brest, 18 à Lille, 19 à Nantes, 20 à Rennes, 21 à Paris et Limoges, 22 à Biarritz et Nancy, 23 à Strasbourg, 24 à Clermont-Ferrand, 26 à Perpignan et 28 à Marseille et à Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de la playlist avec vous. Mais oui, c'est l'heure, bon réveil. C'est l'heure de la playlist avec vous, Mathieu Conquet, bonjour.
Bonjour Marion.
Et ce matin, vous nous parlez du nouvel album de Damso qui est sorti vendredi dernier.
Et est-ce que c'est le dernier album ? Le poids lourd du rap le laisse entendre, il a envie de cinéma, de comédie musicale, alors cet album ce sera peut-être le dernier, et vous allez être surpris ou saisi j'espère, parce que vous allez entendre de Damso.
Dans les ténèbres je commence ma vie, je parle en GK en haut et mon travail, de la voirie à la Harry, je fais des AR au-dessus de l'Océanie, le pistolet te fume comme le Wally, le bruit que ça fait quand l'âme s'est en allée. Je me suis sapé pour des strass et paillettes, tellement je m'aime les arrêtes, la salope Kali. Les chants de coton chantent encore, l'esclavage a-t-il été aboli? Les émirats inscrits sur le Wally, ça remplit la mallette de sachets de cocaïne. Nombreux carres lourds causant tension tout autour du cou. Il n'y a plus d'amour mais font des enfants juste pour sauver le coup.
N'oublie pas qu'un cœur brisé ne fait que mimer des sentiments. Il y a de quoi méditer et ruminer sur les mots de Damso. Impardonnable, ça c'est l'un des titres phares de Beya, le nouvel album de Damso.
Oui, alors expliquez-nous.
Ne me demandez pas Marion de vous expliquer le titre Beya. Ça s'écrit déjà B-E Macron Y A Macron H. Macron, c'est ce graphème, c'est comme une barre au-dessus de la voyelle. On retrouve ça dans plein de langues, le laiton, le yoruba, le tahitien. Le chiffre 5 des lettres serait lui aussi codé, et quand vous voyez qu'un des morceaux de l'album s'appelle Fibonacci, comme la suite de Fibonacci, en mathématiques on n'est pas loin du nombre d'or, bah là vous vous dites que tout ça devient très crypté quand même.
Oui, en effet.
Tellement perché parfois que certains ont comparé Damso à Jean-Claude Van Damme, son compatriote bruxellois d'origine. Damso a décidé d'en rire et de faire un morceau qui s'appelle JCV Dems, assumant d'être parfois fumeux pour certains. Alors musicalement, vous me direz, où en est-on?
Oui,
des
en
accords
est-on
mineurs, vous entendez au piano, est-ce que Damso délaisse le rap pour être de plus en plus pop et mélancolique? Non ! L'attrape est toujours là, la preuve, avec ce morceau, par exemple, Violence, ça s'écrit Vi-olence. Damso.
Les démons, à minuit, la police est venue, la folie, les ennuis, j'ai reconnu l'inconnu, Ajoutez mon soirée, je connais le tarif, je connais le tarot. La roguée, on connaît le crime, on le commet, le négro est paro. Les démons, à minuit, la police est venue, la folie, les ennuis, j'ai reconnu l'inconnu.
J'ai reconnu l'inconnu et Damso dans les rimes qui suivent de multiplier les clins d'œil et les références à plein de grands albums de rap récents. Si je vous dis ce monde est cruel, ce monde est méchant, mais ce monde où rien, mourir en légende, partir en réfé, bah ça fait sens, ça fait une phrase, mais surtout, oui. En fait, c'est des titres des albums de Val, de Niska, ouais, de Nino, PNL ou encore Nekfeu. Damso salue les siens, il cite ceux qu'il aime, comme Freeze Corleone, à qui il fait remarquer qu'il utilise beaucoup trop le mot comme. Sinon, ses flèches vont essentiellement à Booba, bien sûr. Violence, c'est un exercice. Je me sentais en colère sur pas mal de choses. On peut rapper de plein de manières différentes, mais ça reste un exutoire, explique Damso dans une émission, vous savez quoi, exclusive, qu'on a tournée ici avec lui. Et il va tout nous raconter, les morceaux de son nouvel album. Quand je suis derrière le micro, c'est la liberté. La prod est là pour accompagner mes traumas. La montée ici, la caisse claire là, je sais qu'avec cette construction, je peux m'énerver comme ça. Voilà, Damso raconte tout dans Titre à Titre pour France Inter. Allez, je vous fais écouter Qui m'a demandé, un titre tropical presque, on dirait un zouk. Et si on danse tout de suite sur l'air léger, Damso, bien sûr, il en profite pour glisser un de ses textes les plus deep. Damso.
Moi j'ai du mal à parler, j'ai tellement serré les dents. J'ai vécu des choses atroces, j'connais la douleur des gens. J'cherche la paix un peu partout, guidé par le vent. Pour savoir comment aimer, j'ai demandé aux religions. Elles m'ont dit tu connais rien dans la souffrance, celle que le temps ne guérit pas. Quand l'âme est blessée sur chemin, ça laisse des traces depuis l'enfance. Et la mémoire n'a que le choix d'y repenser, repenser, repenser. Moi j'comprends pas pourquoi j'suis né, j'suis dans le flow. Pourquoi mon daron a-t-il craché dans le trou? Il fallait savoir déjà est-ce que vous l'aimez. Vous êtes bien énorme mais qui m'a demandé ma permission de venir au monde. Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, Tony, Tony. Pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. La vie de rêve, la vie de Tony Braxton. Les mauvais choix font que j'déconne. Son bras petit feu, le désespoir résonne. Tant d'innocents, tant d'innocents payent pour que l'Occident règne sur les consciences saines, puis de confiance. Les conséquences de la méfiance saine, les cœurs mis en scène qui ignorent. Qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir?
Qui m'a demandé, Damso, qu'on retrouve demain soir sur France Inter pour Titre à Titre, Mathieu?
BIA, oui, son nouvel album qui sera raconté, expliqué de l'intérieur par Damso lui-même. Il vous dira même d'où viennent les chœurs et le public qu'on entend dans ce morceau.
Et Macron ne sera pas là. Titre à Titre avec Damso. Rendez-vous à 21h ce soir. À 5h42, le Zoom de la rédaction nous emmène à Homs, troisième ville de Syrie et ville martyre durant la guerre. 30 000 morts et des quartiers entiers détruits par l'armée de Bachar el-Assad. 6 mois après la chute du dictateur, Homs est devenue une ville test pour les nouvelles autorités syriennes. Le président de transition, Al-Shara, avait promis de faire de la sécurité sa priorité. Mais à Homs, plus d'une centaine de personnes ont été tuées ou enlevées depuis décembre. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Vous êtes retournée avec Alexandra Bergel dans l'un des quartiers où les habitants alaouites, c'est-à-dire ceux de la même communauté que Bachar el-Assad, redoutent les actes de vengeance.
La vie des habitants du quartier Al-Sabil a radicalement changé depuis 6 mois. Plus personne ne sort le soir. La peur s'est répandue à mesure que des actes de violence ont été commis dans les quartiers alaouites de Homs. Dans son appartement, Gadir, sans travail depuis le début de l'année, raconte comment des hommes sont arrivés dans sa rue après la chute de Bachar el-Assad.
Ils nous ont alignés sur le trottoir, ils nous ont frappés avec des fouets. Et celui qui ne leur plaisait pas, ils l'ont emmené dans leur pick-up.
Qu'est-ce qu'ils vous disaient ?
Vous êtes les chien d'Al-Assad.
À une rue de chez Ghadir, sa mère vit terrée chez elle.
Je ne sors même pas sur le balcon parce qu'on craint que n'importe qui lance une grenade. Ça s'est passé dans notre quartier.
C'était il y a un mois. Un minibus vide a été pris pour cible en pleine nuit. Trop de rancœurs se sont accumulées. Les Alaouites, minoritaires dans le pays, sont assimilés au clan Assad et à ses exactions. Alaeddine Brahim est un ancien opposant. Il est lui-même Alaouite. Pour apaiser les tensions, il joue les intermédiaires entre les différentes communautés et les nouvelles autorités de Homs.
Je connais les problèmes historiques qui expliquent cette haine entre Alaouites et sunnites. L'ancien régime s'en est servi pour garder le contrôle de la société. Mais depuis le 8 décembre, le rapport de force s'est inversé.
Sous la pression internationale, les nouvelles autorités sunnites ont dû prendre des mesures comme le déploiement de forces de sécurité à l'entrée des quartiers alaouites. Nous rencontrons Beïda Arnaout dans son bureau, le drapeau de la révolution syrienne, en évidence à côté de lui. Ce natif de Homs a dû quitter la Syrie pendant 12 ans. Il représente désormais le nouveau pouvoir en place.
Nous avons entamé une série de réunions avec les différentes composantes de la société, dont les communautés alaouites et chrétiennes, afin de promouvoir le principe de citoyenneté et restaurer le tissu social. Chaque acte commis en dehors de la loi est un acte inacceptable auquel nous devons faire face.
Le président syrien Al-Shara a annoncé récemment la création d'une commission nationale pour la justice de transition, une étape indispensable pour bâtir un état de droit dans un pays qui a connu des décennies de régime autoritaire.
Et Valérie Crova, les Syriens débarrassés de Bachar al-Assad réclament aujourd'hui des comptes.
Au palais de justice de Homs, les dépôts de plaintes s'accumulent. Un vieux monsieur attend à un guichet, un formulaire à la main.
En 2011, des hommes sont venus et ont pris ma terre. Ils avaient des armes et ils m'ont dit « Si tu veux la récupérer, t'as qu'à revenir. Je viens porter plainte car je veux récupérer mon terrain légalement et être sûr qu'on ne va pas me le réclamer plus tard. »
Des cas de spoliation de propriété ont été légion pendant la guerre. Le nouveau bâtonnier de Homs, Mohamed Badawi Al-Jouja, ne dort que 5 heures par nuit depuis sa nomination en mars. Son prédécesseur a été remercié car jugé trop proche du parti Baas, le parti des Assad.
Les Syriens ont perdu leurs droits et viennent les réclamer. Ils sont des centaines de milliers à avoir subi l'oppression. Et aujourd'hui, leur est offerte la possibilité d'exiger leurs droits. Par exemple, je suis dans ce bureau, il a été enregistré au nom d'une personne qui s'est attribué illégalement ce bien. Je ne peux pas le louer ni le vendre.
La reconstruction de la Syrie passe aussi par la refonte de son cadre législatif et de son système judiciaire. Un travail titanesque et un autre défi pour les nouveaux maîtres du pays.
Homs, ville test pour le nouveau régime syrien. C'est un reportage Zoom de Valérie Crova à réécouter sur l'appli Radio France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Il est 5h46, l'heure de contacter notre invité déjà debout, responsable achat au sein de la Brigade de Véro, une entreprise qui fournit des plats cuisinés diététiques. Bonjour Clément Tolo.
Bonjour.
Alors, question traditionnelle, pourquoi est-ce que vous êtes déjà debout ?
Eh bien, debout, car nous, la journée attaque à 5h du matin pour réceptionner la marchandise, donc tous les ingrédients pour composer nos petits plats de rééquilibrage alimentaire.
Alors, à quoi ils ressemblent vos petits matins ? Quel est le programme ?
Eh bien, déjà réveil 4h30 pour arriver aux entours des 5h, 5h15. Si on a de la chance, il nous reste des petits déjeuners de dispo, parce qu'on fait aussi nos petits déjeuners. Donc ça, c'est en échanson là, avec le petit café. Et puis après, on fait un petit brief avec l'équipe, voir s'il n'y a pas de soucis sur les réceptions. Et puis, on contrôle la marchandise, on met dans les stocks et après, ça part en cuisine.
Mmh. Il est diététique, le petit déjeuner, comme les plats que vous commercialisez ?
Oui, en fait, la Brigade Véro, on propose des régimes alimentaires grâce à une approche justement d'équilibre nutritionnel global sur toute la semaine. Donc on reçoit sa box et on a des plats pour toute la semaine. Et en fait, ces plats sont travaillés avec une diététicienne qu'on a en interne qui s'appelle Camille et qui va valider en fait tous les plats pour la semaine.
Alors je voulais savoir comment vous êtes arrivé là. Vous aviez d'abord créé votre start-up de viande locale éthique.
C'est ça. Moi, avant, donc, je suis arrivé à Montpellier en 2013. Donc, j'avais monté une société où on vendait justement, de la viande locale éthique. Et on avait comme client la Brigade de Véro. Et bon, on était une jeune structure et bon, on a eu 2-3 petites difficultés avec la crise économique, le Covid et du coup, bon ben, on était un peu, c'était un peu difficile. Et la brigade de Véro nous a ouvert les portes en nous disant, ben non, on veut vous garder. Et du coup, ben, on a intégré comme ça petit à petit la brigade de Véro.
Alors la brigade de Véro, c'est un drôle de nom. Faut expliquer peut-être. C'est quoi l'histoire de ce nom et de cette entreprise?
Et ben en fait l'histoire c'est Véronique qui autour des 50-55 ans voulait passer son reste, c'était passer son CAP de cuisine.
Une vraie personne donc.
C'est une vraie personne qui est toujours à la brigade qui voulait passer son CAP de cuisine et en fait cherchait à perdre du poids. Donc elle a essayé plein de formules sur internet mais ça marchait pas et du coup elle a dit bon ben moi j'ai mon CAP en poche, je vais faire mes petits plats mes petits plats et du coup ça fonctionnait et ses copines disaient à Véro mais comment t'as fait? Et elle a dit bah attendez moi je vais cuisiner pour vous. Et elle a commencé à cuisiner pour ses copines. Il y a son fils qui faisait une école de commerce en Angleterre qui est rentré. Il a dit mais maman il y a quelque chose à faire là. Et du coup c'est parti de 5 clients, 10 clients et puis maintenant on cuisine pour 5000 clients chaque semaine.
Ouais, et donc vous rencontrez vous des fournisseurs y compris des éleveurs dans les Pyrénées-Orientales notamment récemment donc qui vous ouvrent leurs portes en fait.
C'est ça, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on a vraiment une relation de proximité avec ça soit nos producteurs de légumes, mais aussi nos éleveurs. Donc pas plus tard qu'hier, on était dans les PO à la rencontre de nos éleveurs, que ça soit de bœuf, de porc, d'agneau, de veau. Et c'était vraiment un moment de partage qui est extraordinaire et qu'on essaie de retransmettre après à travers nos plats.
Et alors, on n'a pas le temps de développer malheureusement, mais Clément Tolo, vous vouliez aussi nous dire que après les plats à cuisiner, bah, vous allez aussi vous lancer avec la brigade de Véro dans un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Kitok et qui, elle, va distribuer des ingrédients et permettre aux gens de faire eux-mêmes leurs plats, c'est ça hein ?
C'est ça, c'est toujours dans le même objectif d'avoir rééquilibrage alimentaire. Mais voilà, si on n'a pas le temps,
on a compris le concept.
Voilà, c'est ça.
Merci après, beaucoup. Merci beaucoup Clément Tolo, responsable des achats à la brigade de Véro. Merci d'avoir été notre invité déjà debout sur France Inter. Il est 5h50. Les réponses à toutes les questions des grands et surtout des petits, c'est dans les petits bateaux avec Camille Cronier et ses invités. Et aujourd'hui, à l'heure pour certains de passer devant le miroir dans la salle de bain, question de Félix.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, au miroir, mon beau miroir.
Bonjour, je m'appelle Félix, j'ai 11 ans et je me demandais qu'est-ce que la beauté. Donc j'espère que vous pourriez me répondre. Voilà, merci.
Eh ben écoute Félix, on va tenter de te répondre. Je suis avec Marianne Chaillant, professeure de philosophie. Alors ça c'est une vraie question, hein. Ça pourrait être une question presque... Il est au collège Félix, mais ça pourrait être une question du bac ça. Qu'est-ce que la beauté Marianne Chaillant?
Ah mais complètement, et quand Félix arrivera en classe de philosophie en terminale, c'est très possible que le professeur lui pose cette question.
Alors, je précise que vous êtes prof au lycée vous. Hein.
Tout à fait. Alors peut-être qu'un jour je serai ton professeur Félix, je sais pas. Et c'est sûr qu'on réfléchira ensemble à ta question parce qu'elle est très profonde. Qu'est-ce que la beauté? Alors là, sur cette question, tous les philosophes ne sont pas d'accord. Il y en a qui vont dire que la beauté, elle se définit par des critères. Donc par exemple, en art, on appelle ça des canons esthétiques. Je ne sais pas si à 11 ans, tu as déjà vu en cours de français, au théâtre, si tu as connu la règle des trois unités. Cette règle, elle dit que pour être belle, une pièce, il faut qu'elle respecte une unité de lieu, une unité de temps, une unité d'action. Tu vois, c'est vraiment un critère objectif. Et donc une œuvre d'art, elle est belle si elle respecte les critères. Si c'est bien fait, c'est beau. Peu importe si ça te plaît ou pas. Et du coup, tout le monde doit être d'accord sur la beauté.
Donc, il y a aussi des critères pour les humains, d'ailleurs, hein, quand on voit les concours de beauté et tout, surtout pour les filles, avec la pression. Hein.
Tout à fait. Il y a des critères, effectivement. Et certains considèrent que le beau, c'est quand on satisfait à ces critères, quand ça correspond. Bon, il y en a qui disent que c'est n'importe quoi, et que ces critères, ça sert à rien, et que le beau, c'est très subjectif, en fait. Ça dépend des goûts de chacun. Il y a un philosophe qui s'appelle Hume, et qui nous dit « ce qui est beau, c'est ce qui te plaît ». S'il y a une chanson qui te plaît, par exemple, et tes parents te disent « mais elle est horrible », eh bien ce philosophe, il dira « pour toi, la chanson est belle, et pour tes parents, elle est laide ». C'est possible, en fait, qu'une même chanson soit belle pour les uns et laide pour les autres. Parce que ce qui fait la beauté, c'est plus des critères qui valent pour tout le monde, c'est ton sentiment. Et puis, il y a un autre philosophe qui s'appelle Emmanuel Kant. Et lui, il a une idée qui me plaît assez bien, j'espère que je vais bien te l'expliquer. Il nous dit, non, la beauté, c'est très différent de ce qui nous plaît. C'est pas « ça me plaît à moi, donc c'est beau, ça te plaît pas, donc c'est pas beau ». Il n'est pas d'accord avec Hume. Par exemple, je sais pas toi, mais moi, j'adore Le Roi Lion, le dessin animé.
Ah oui, Hakuna Matata.
Hakuna Matata, j'adore. Et en plus, je trouve ça beau. Mais ça m'arrive qu'il y ait des choses que j'aime pas. Je sais pas toi, t'as forcément dû lire des trucs au collège, des textes en français que t'as pas aimé. Mais tu dis « ouais, j'aime pas, mais c'est beau ». Ou à l'inverse, il y a des choses que t'adores. Mais tu dis, oui, bon, j'adore cette chanson, je sais pas, de Jules, par exemple. Tu peux dire, ah ouais, j'adore, mais j'avoue, c'est pas beau. C'est-à-dire que quand il dit, ah non, il y a une différence entre ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas et le beau. Et lui, il pense que sur le beau, on devrait tous être d'accord. Alors tu vas me dire, bah quoi, alors on revient sur les critères ? Ah bah non, lui, il te dit, on sait que c'est beau, on sait que tout le monde devrait être d'accord, mais on sait pas pourquoi. On peut pas donner de critères, mais on sent. Alors on sent, mais c'est pas un sentiment personnel, mais on reconnaît que tout le monde devrait trouver ça beau. Voilà, tu vois, c'est un peu... tout le monde n'est pas d'accord, et je ne sais pas quelle sera ton opinion sur ce qu'est la beauté, Félix. Mais je t'ai présenté les trois grandes théories qui s'affrontent en philosophie.
Et maintenant, c'est à vous de voir. Salut les matelots.
Les petits bateaux. À retrouver quand vous voulez sur l'appli Radio France.
Et Camille Crognier, on vous retrouve à 20h.
France Inter. Le 5-6.
Allez, allez, on se dépêche, c'est l'heure du café philo. Nous sommes déjà en retard pour affronter une journée qui promet d'être chargée. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Arrêtons-nous quand même un instant et demandons-nous pourquoi nous courons autant et pourquoi nous avons besoin que notre café ou notre thé soit aussi corsé.
Bah oui, notre époque est pressée, Marion. Elle fait de nous des êtres électrisés, trépidants, qui veulent à tout prix vivre intensément jusqu'à la dernière miette. L'intensité est devenue la pièce maîtresse de nos existences. En fait, bon, elle a toujours existé, plus ou moins. Disons que l'invention de l'électricité a augmenté la pression. C'est en tout cas le constat que fait Tristan Garcia, comme si l'électricité avait contaminé l'humain. Et son approche est intéressante, je dois dire, parce qu'on s'est peu demandé ce que l'électricité avait fait à la pensée et à la morale. La sagesse serait, sans doute, d'accepter la vie comme elle est, les couleurs vives, comme les couleurs pastel. Simone de Beauvoir.
Je crois que c'est parce que j'ai le goût du bonheur d'une manière très forte que j'ai également le sens du malheur et que le malheur m'apparaît comme quelque chose de tragique. Je le dis d'ailleurs aussi ça dans mes mémoires que j'ai toujours séparé les ténèbres de la lumière en quelque sorte. Les choses sont ou très noires ou très lumineuses dans l'ensemble pour moi. Peut-être un peu plus d'ailleurs quand j'étais jeune que maintenant, où malgré tout, quand on vieillit, les deux se mélangent un petit peu plus, les bonheurs sont un peu moins vifs et le sens de la mort un peu moins tragique parce qu'on sait bien, on a fini par comprendre qu'il faut s'y acheminer et qu'après tout, c'est la seule solution. Mais enfin, j'ai quand même encore un peu ces deux tendances qui sont encore assez nettement séparées, enfin... séparer la lumière et l'ombre. Je n'ai jamais pensé que j'avais raté ma vie, je suis extrêmement contente de ma vie, et je trouve que si on prend le mot de Goethe, qu'est-ce que c'est qu'une belle vie, ce sont des rêves de jeunesse réalisés dans l'âge mûr, eh bien, alors, vraiment, j'ai réussi ma vie, puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves. Simplement, il y a un moment où, quand on se retourne réflexivement sur sa vie, on s'aperçoit qu'une vie même réussie, c'est sur un certain plan un échec, parce que ça n'est pas quelque chose, une vie, qu'on puisse prendre dans ses mains, posséder, contempler, qu'on n'a pas une vie, finalement.
Alors, est-ce que la mort est une solution ? Je ne sais pas, mais accepter que la vie vous échappe, qu'on ne peut pas lui mettre une note et que les choses sont toujours entre le plus et le moins.
Bah oui, c'est ça la sagesse. Et c'est un peu ce que dit un autre philosophe, Jean-Philippe Piéron, qui pense qu'au fond, il faut bien faire avec ce qu'il appelle la banalité intenable. Faut vivre. Chantait Mouloudji, faut vivre, c'est le cri de l'intenable, du compromis et parfois de l'acceptation. On a le droit de ne pas vouloir toujours plus, de se poser, de s'ennuyer, d'aimer la routine. Oui. S'en remettre à l'intensité seulement pour trouver une raison de vivre, eh bien, c'est ouvrir la porte à la fatigue existentielle.
Et nous, on n'est pas fatigués, Patricia. Tristan.
Surtout pas quand on se lève comme vous à 2h du matin.
Tristan Garcia et Jean-Philippe Pierre, on seront vos invités ce soir dans leur philo. Tristan Garcia pour son livre « La vie intense » publié chez Autrement. Et Jean-Philippe Pierron pour son essai « Nos vies sur la brèche » sorti aux éditions de l'Atelier. À ce soir.
À ce soir, merci Marion.
À ce soir. Après le flash de 20h.
France Inter présente le livre
Les Résistantes
de Philippe Collin.
À travers les destins de 5 résistantes, je retrace le rôle crucial des femmes dans la Seconde Guerre mondiale.
Il y avait dans mon pays une bande de cambrioleurs et de pillards, c'était l'armée nazie.
Une histoire de fraternité.
Les Résistantes de Philippe Collin, un livre France Inter.
France Inter, partenaire du Festival international de la métropole de Lyon du 2 juin au 26 juillet.
Plus de 140 représentations de théâtre, danse, magie, cirque, cabaret et concerts pour 2 mois de fête. Avec Grace, du chorégraphe Benjamin Millepied, Bess Gibbons, The Kills, Hervé, Mazel Fretten, Georgia Smith, Geuse Affelstein ou encore Le Petit Cirque, la nouvelle création de Pomme, Marie et Johan Bourgeois. Les Nuits de Fourvière, du 2 au 26 juillet, un événement France Inter.
5h58.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
C'est humide aujourd'hui, Sébastien Léas.
Une perturbation pluvieuse circule sur une large moitié nord du pays. En journée, les pluies traîneront encore entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine et l'Alsace, touchant aussi la Bourgogne, mais en devenant progressivement plus dispersées. À l'arrière de ce front perturbé, le ciel sera plus hésitant sur une large partie nord-ouest. Des éclaircies se développeront, surtout cet après-midi, entre la façade atlantique, le bassin parisien et la Lorraine. En revanche, il faudra composer avec des averses sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Des averses vont aussi apparaître cet après-midi entre les Cévennes et le centre-est. Des orages sont même à craindre en fin de journée. Les régions méditerranéennes auront une journée très lumineuse, même si le ciel se voilera cet après-midi. Les nuages seront plus épais au sud de la Garonne. Les températures maximales afficheront 16 à 23 degrés sur la moitié nord et 22 à 30 degrés plus au sud.
Sébastien Léas de Météo France. Le 6-9 démarre dans quelques secondes et vous êtes de retour à Limbadou au programme ce matin.
Pas très loin.
Mais oui, vous êtes là.
Programme ce matin, programme riche et varié avec à 6h20, retour sur le congrès du PS et l'élection d'Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, avec votre invité Rémi Lefebvre, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Lille et chercheur au Centre d'études et de recherches administratives, politiques et sociales. Il sera à votre micro, Marion, dans 20 minutes.
Et France Inter, il est presque 6h.